www.sainte-terre.com.
Partir avec Stéphanie Duncan.
Bonsoir. Le Salon du Livre, qui s'est ouvert hier, mettant à l'honneur cette année les écrivains du Nord, c'est un voyage en Scandinavie que je vous invite ce soir. À travers le regard d'un écrivain tchèque, Karel Čapek. Un quasi inconnu en France, mais dans son pays, un des plus grands écrivains du XXe siècle. Même si, de ce siècle bouillonnant et meurtrier, Čapek ne connut qu'une toute petite moitié. Né en 1890, il meurt le 25 décembre 1938. Ce n'est sans doute pas un hasard, on le verra, quelques semaines après les accords de Munich et l'invasion des Sudètes par les armées d'Hitler. Événement qui marque le début de la fin d'une Tchécoslovaquie libre et démocratique à laquelle Karel Čapek croyait. Nous sommes 2 ans plus tôt, en 1936 donc. Čapek, philosophe, journaliste, écrivain réputé, part avec Olga, son épouse, à la découverte du Danemark, de la Suède et de la Norvège. Bon, vous l'aurez deviné dans le récit qu'il en rapportera, Voyage dans le Nord, dont la traduction vient d'être publiée aux éditions du Sonneur, on est loin des secrets de la mer rouge d'un Henri de Montfred, ou des tribulations en traîneau à chien d'un Jack London. Karel Čapek n'est pas un aventurier. Il serait plutôt adepte d'un tourisme, comment dire, confortable et discret. Petit bourgeois, diraient les mauvaises langues. Et les pays où il se rend, si beaux soient-ils et beaux, ils le sont, n'ont rien d'exotique. Mais ce sont des pays en paix. Et c'est sans doute cela justement qui l'attire. Le Nord, Karel Čapek l'a d'abord découvert dans les livres, les récits de son enfance, des explorations polaires. Et les grands auteurs, bien sûr. Kierkegaard, Hamsun, Ibsen, Strindberg. Aucune diplomatie, dit-il, aucune société des nations n'est aussi universelle que la littérature. Or, les hommes n'y accordent que trop peu d'importance. Voilà pourquoi ils peuvent encore se haïr ou se sentir étrangers les uns les autres. L'unique témoignage de la voix de Karel Čapek est justement un message de paix adressé sur les ondes au poète indien Rabindranath Tagore, depuis la radio tchèque, à la veille de Noël 1937.
Czechoslovak Station. Karel Čapek, C-A-P-E-K. Karel Čapek is addressing a message of goodwill and understanding to Rabindranath Tagore, Shantinikethan. Karel Čapek speaking.
Mistře Thakure, harmonický hlas východu, zdravíme vás ve vašem Shantinikethanu. Zdravíme vás z Československa, kde nyní padá sníh. Z Evropy, kde je nám teskno, ze západního světa, kde ani ty nejvyspělejší národy si nemohou podat ruce jako rodní bratři. A přece i přes tu dálku zemí a kultur k vám vztahujeme bratrskou ruku. K vám, básníku svaté moudrosti, k vašemu pokojnému Santini Tetanu, k vaší veliké Indii, k vaší nesmírné.
Xavier Galmiche, vous êtes professeur de littérature slave à la Sorbonne, spécialiste de l'Europe centrale. Alors Karel Čapek, en France, ce nom n'évoque pas grand-chose, à part peut-être pour les amateurs de science-fiction, hein, puisque Karel Čapek serait un précurseur du genre, il aurait inventé le mot « robot » dans sa pièce « Rure ». Ce n'est qu'une facette du personnage, je pense, de ce grand écrivain tchèque. Qui est-il en réalité, Karel Čapek, Xavier Galmiche?
Karel Čapek est un intellectuel. Il va s'illustrer pendant toute la période de la Première République tchécoslovaque, donc ce pays qui a été formé à partir de différentes régions de l'Empire austro-hongrois jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'en 1938, les accords de Munich. Avec l'agression nazie, la Tchécoslovaquie, cette première Tchécoslovaquie disparaît. Et Karel Čapek va devenir écrivain officiel de la Première République tchécoslovaque, qui est un pays moderne, fort influencé par le modèle français, républicain, laïque, avec une culture, disons, sociale de gauche, qui fait penser à la culture des radicaux. Donc ce sont des choses qu'on trouve à la fois dans des textes qu'il publie en tant que journaliste Et c'est comme ça qu'il va publier des entretiens avec le président de la Première République tchécoslovaque, Masaryk. Donc il y a cette dimension civique très importante du point de vue littéraire. Il est assez vite connu. Moi, j'aime beaucoup sa première période, qu'on peut dire expressionniste, avec des petites nouvelles assez rentre-dedans, très drôles. Et il va s'illustrer dans des romans. On peut citer effectivement La guerre des salamandres, qui est une sorte de fable drôlatique sur le nazisme menaçant. Il a aussi une création théâtrale. La pièce la plus connue, c'est R.O.R. On a une vision, disons, apocalyptique de la civilisation capitaliste, mécaniste. On a parfois l'impression, en voyant cette pièce, de voir une version un peu différente des temps modernes de Chaplin.
Est-ce qu'on peut dire de Karel Čapek qu'il est un écrivain anti-totalitaire, parce qu'il a écrit des textes anti-nazis et puis aussi, je crois, assez anticommuniste?
Alors, il a, bien sûr, en tant que citoyen de la première Tchécoslovaquie tchèque, il a été très sensible à la montée du péril nazi, puisque dans la ligne de mire d'Hitler, la Tchécoslovaquie était au premier plan, avant même la Pologne. Et c'est par la Tchécoslovaquie que ça a commencé. C'est vrai qu'il a aussi ce principe d'équité bourgeoise, dans le bon sens du terme bien sûr, qui fait qu'un des rares de sa génération, un peu comme Gide en France, il se méfie terriblement de l'aspect totalitaire de la révolution en Russie soviétique. Et il écrit un texte qui est intitulé « Pourquoi je ne suis pas communiste ?», ce qui explique que après la Seconde Guerre mondiale, il a déjà disparu, son œuvre aura quelques problèmes pour subsister dans les manuels communistes. Il sera réintégré, en fait, progressivement à partir des années 60.
Xavier Galmiche, en 1936, Karel Čapek a 46 ans. Il n'a plus que 2 ans à vivre, mais ça, bien sûr, il ne le sait pas. Il part en voyage vers le Nord, c'est le nom d'ailleurs de son livre, le Danemark, la Suède et la Norvège. Alors, dans les années 30, les grandes destinations pour les intellectuels français, par exemple, engagés, c'est l'URSS ou l'Espagne pour soutenir le camp républicain contre Franco. À droite, on visite l'Italie mussolinienne ou l'Allemagne de Hitler. Karel Čapek, lui, choisit la Scandinavie. C'est étonnant ce choix, une région du monde qui est finalement assez à l'écart des grandes passions de l'Europe de l'entre-deux-guerres.
C'est vrai que c'est délibéré de s'attaquer à une sorte de frange de l'Europe. Il faut dire quand même que la Scandinavie représente aux yeux des pays tchèques une valeur culturelle depuis longtemps. Au moins, que je sache, depuis la fin du XIXe siècle, où on a vu dans la Scandinavie, je crois, 2 choses. D'abord, une sorte de pays de l'âme, et ça, c'est bien sûr le théâtre d'Ibsen. À mettre, bien sûr, en rapport avec la découverte, qui, elle, est une chose de l'Europe centrale, la psychanalyse. Alors, après, l'actualité scandinave est quand même moins intense, et je crois que c'est la deuxième partie de la réponse. Il y a quelque chose de volontariste chez Čapek, d'aller dans une région dont on ne parle pas beaucoup, avec, je crois, un amour des confins, des marches de l'Europe, qui par ailleurs concerne les pays d'Europe centrale. C'est-à-dire quand on va là-bas, on est toujours étonné d'être dans cet espace qui est au bord de ce que nous connaissons. Donc, je pense que c'est un mécanisme qui fonctionne très bien pour Čapek et il le fait avec une intention, c'est de découvrir des pays, des contrées ou des paysages de culture, disons germanique, qui échappent à une espèce d'implacable machine nazie. Des germains démocrates, des germains libres. Et il y a quelque chose comme une fonction d'antidote dans ce voyage. Je crois que c'est une intention et chaque page de ce livre actualise ce principe. Et c'est vrai que la joie, parce qu'il y a beaucoup de joie dans ce texte, qui provient du spectacle de la Scandinavie, c'est la joie de comprendre qu'il y a un antidote et que peut-être la pratique du paysage, la pratique de la référence culturelle nous permet d'échapper encore un jour à la menace.
C'est une Allemagne en proie à Hitler depuis 3 ans maintenant donc que Karel Čapek traverse en train de sud au nord. C'est peu de le dire, il semble soulagé d'arriver enfin au Danemark. Xavier Galmiche, le premier pays que Karel Čapek visite est le Danemark, un pays qui visiblement l'étonne et le charme pour sa tranquillité justement. Avec quelque chose même d'un peu enfantin, il compare ce pays à un immense coffre à jouets. Une remarque qui pourrait sembler désagréable, un peu méprisante. Mais sous la plume de Karel Čapek, on a l'impression que c'est plutôt de l'humour et pas du cynisme.
Il y a chez Karel Čapek le résultat d'une assez longue tradition qu'on peut appeler une tradition Biedermeier, qui concerne les pays de l'ancienne Autriche, où on considère les gens sous leur petit côté, un peu ridicule et un peu sympathique. Ce bien-être familial raisonnable qui repose sur la prospérité économique. Et c'est exactement ce que trouve Čapek dans le Danemark. Donc le phénomène de réduction qui vous semble enfantin, c'est un phénomène de perception de la réalité comme une réalité à mesure humaine. Et donc je crois que ce sont des valeurs qui s'ancrent très profondément dans la culture moderne tchèque. L'idée que cette petitesse de la vie est aussi une sorte de garde-fou.
Xavier Galmiche, que ce soit au Danemark, en Suède ou en Norvège, ce qui est étonnant dans ce récit de voyage, c'est que Karel Čapek ne parle quasiment pas des personnes qu'il rencontre, il ne parle pas de conversation, il regarde les gens, mais de loin. Et surtout, il décrit des paysages.
Ce sont des voyages qu'il a fait avec sa femme. Et il y a un côté, je trouve, voyage de noces tardif. C'est un voyage privé. Et avec cette idée, je crois que ça marche avec le reste de faire une parenthèse, d'échapper à toute cette déprime qui a fondu sur l'Europe centrale depuis 1933. C'est plutôt une sorte de promenade avec quelque chose qui reste de l'impressionnisme, un livre d'images. C'est un livre d'images. D'ailleurs, le livre est illustré de dessins de Karel Čapek lui-même. Je suis content de voir que l'édition française a respecté cela. Dans des éditions que j'ai vues des années 1930-40, ce sont des illustrations colorées, coloriées, presque par un enfant, ce qui rajoute un peu à ce charme-là.
Xavier Galmiche, Karel Čapek, en arrivant à Stockholm, est frappé par la taille et la beauté des Suédois à bicyclette. Ils sont grands, blonds, en bonne santé. Il est difficile pour lui, on voit bien, de ne pas penser, je le rappelle, nous sommes en 1936, de ne pas penser aux théories raciales de Hitler, aux mythes ariens, des théories auxquelles les grands blonds de Suédois qu'il croise semblent bien éloignés.
Čapek, depuis les débuts, depuis ses textes expressionnistes, est marqué par l'art de la caricature. Une caricature de bons hommes, le petit bonhomme qui nous amuse et qui se comporte de façon un peu étonnante. Toutes ses œuvres de jeunesse sont peuplées d'énergumènes, voilà, comme ça. Et je pense que les Scandinaves sont des énergumènes musclés, avec des beaux cheveux. Et bien sûr, la petite intention, l'idée de derrière la tête de Čapek, c'est d'animer ses quasi-marionnettes, en fait, en pensant aux autres, en disant les Scandinaves arrivent à être ces blonds qui nous font rêver et à ne pas être embrigadés par le nazisme. L'histoire lui a donné raison. C'est vrai qu'il y a, quand on lit maintenant, après la Seconde Guerre mondiale, ce livre-là, on se dit, effectivement, Čapek a senti ça, cette espèce de résistance un peu innée des pays scandinaves à cet abîme-là.
Une neutralité que la Suède maintiendra, même lorsque la Norvège et le Danemark, deux pays frères pourtant, seront envahis au printemps 40. Après Stockholm, Karel Čapek reprend le train. Direction Oslo, la capitale de la Norvège. Xavier Galmiche, quand Karel Čapek arrive à Oslo, la capitale norvégienne est envahie d'enseignants de catéchisme. C'est un congrès qui les réunit. Et plus tard, le bateau qui va le conduire au Cap Nord sera rempli de protestants américains pleins de bons sentiments, très bruyants, qui horripilent visiblement Karel Čapek au point de vouloir les jeter par-dessus bord. On dirait que Karel Čapek n'aime pas beaucoup les hommes en groupe, mais qu'il préfère les individus. C'est un peu ça, non?
Il est absolument sorti de la culture protestante tchèque. Les Tchèques sont les premiers protestants d'Europe, et je crois que toute l'identité moderne tchèque a été fondée, de façon parfois même un peu exagérée, sur cet héritage protestant qui met en avant l'individualité et la rationalité aussi. Donc il est, disons-le, il est anticlérical. Il n'aime pas l'instinct grégaire de la secte, de la réunion qui provoque en soi une mécanique qui peut échapper au contrôle du bon sens. Il y a un texte de 1917, je crois, qui s'appelle « Le système », qui raconte, c'est un texte très farfelu, qu'il a écrit avec Joseph, son frère, qui raconte l'histoire d'une balade en bateau avec une secte de protestants américains. Ils se tiennent tellement mal qu'ils sont passés par-dessus bord.
C'est
des bonnes âmes quand même leur envoient des bouées de sauvetage et ils passent l'après-midi portés par les flots jusqu'à la rive à discuter des avantages du capitalisme. Donc il y a, je crois, cette position-là, un tout petit peu de caricature assez souriante en fait.
C'est à Bergen, grand port de la mer de Norvège, que Karel Čapek s'embarque dans une croisière le long du littoral norvégien vers le Cap Nord. Mais la contemplation des fjords nordiques n'est pas de tout repos. Et puis un jour, au milieu de paysages de plus en plus désolés, le bateau atteint enfin le Cap Nord. « Désormais, c'est le vrai Nord qui commence », écrit Čapek. « Un vrai désert, rien qu'une mer froide, des rochers nus et des mouettes. » Que manque-t-il pour saisir la quintessence de la grandeur austère et nue du monde ? Mon Dieu, je sais bien que nous ne sommes qu'une minuscule planète. Cette péninsule étrange et tortueuse qu'on appelle l'Europe, signifie-t-elle quelque chose pour elle ? Mais je suis patriote européen, et si je ne devais plus jamais voir, je dirais jusqu'à ma mort, j'ai vu la grandeur du monde. Peut-être que notre planète refroidira un jour, ou que nous nous en chargerons nous-mêmes, les hommes. Nous mettrons alors une telle pagaille qu'il n'y aura même plus de mouettes pour crier au-dessus des mers. Mais quand bien même nous nous découperions les uns les autres en petits morceaux, nous ne pourrions pas entamer la grandeur du monde. Je sais. Ce n'est pas un grand réconfort. Nous vivons des heures sombres et notre cœur est empli d'inquiétude. Mais le monde est grand. Xavier Galmiche, plus le bateau monte vers le nord, plus Karel Čapek est saisi par la beauté des paysages. Et en arrivant au Cap Nord, il se rend compte qu'il est à la pointe la plus septentrionale de l'Europe, une Europe donc qui s'apprête à se déchirer. Il écrit ces mots étonnants. Nous vivons des heures sombres et notre cœur est empli d'inquiétude. Mais le monde est grand. Alors, il semble, Xavier Galmiche, que Karel Čapek n'a aucun doute sur la guerre qui s'annonce et sur le cataclysme qui se prépare.
Oui, il faut se représenter les choses. À l'époque, l'Autriche est déjà contaminée. La propagande nazie est en train dans ce qu'on appelle les Sudètes, c'est-à-dire les régions très majoritairement germanophones de Tchécoslovaquie. Le monde de la République tchécoslovaque n'arrive pas à répondre à la demande de ses citoyens allemands, c'est presque un tiers de la population à l'époque qui est de nationalité allemande dans la partie tchèque de la Tchécoslovaquie. Donc il y a vraiment une très grande pression et le sentiment d'impuissance de la part des institutions tchécoslovaques, qui sont des institutions très jeunes, est très angoissant. Donc il y a cette espèce de pression, ce qui est aussi une sorte d'aveu d'échec. Ce qui me frappe en fait dans cette citation, c'est aussi finalement le point de vue écologique. Il y a, je crois, c'est plutôt quelque chose que j'attribuerais à une certaine sensibilité allemande, enfin germanique, de l'Europe centrale en général depuis le début du XXe siècle. C'est-à-dire une proximité avec la nature qui marque le rapport au paysage, etc. Et donc, c'est intéressant de voir que dans ce texte, les deux points de vue, l'antifascisme et l'écologie cohabitent. Hein, c'est intéressant.
Un attentat inqualifiable a été perpétré contre la Tchécoslovaquie. Par sa seule volonté, l'Allemagne envahit le pays dont elle s'était engagée à garantir l'existence. Le 16 mars, au mépris de sa parole, M. Hitler entre à Prague.
Xavier Galmiche, en septembre 1938, les accords de Munich scellent le destin de la Tchécoslovaquie, abandonnée donc par ses alliés français et anglais. Elle est envahie par l'armée nazie. Karel Čapek tombe grièvement malade et meurt le 25 décembre 1938, avant l'entrée des troupes allemandes à Prague. Alors j'ai lu qu'une des premières choses que les Allemands font en entrant dans la capitale tchèque est de chercher Karel Čapek pour l'arrêter. Ils ne savent pas à ce moment-là qu'il est mort déjà. Est-ce que c'est vrai ça?
C'est un détail de la prise en main finalement du monde intellectuel. Čapek était une personnalité en vue qui s'est beaucoup démenée lors des accords de Munich pour mobiliser, disons, les intellectuels de l'opinion mondiale à l'époque et en particulier les correspondants de la SDN, de la Société des Nations, pour qu'il y ait une mobilisation anti-Hitler. Donc effectivement, il était une sorte d'icône, en fait, de la culture démocratique de gauche. Et c'est une anecdote cruelle. En fait, Čapek est mort sans doute de raisons organiques, mais sans doute aussi de chagrin. Il y a quelque chose comme une sorte d'inanition et de suicide passif dans cette mort-là, de voir que tout cet effort depuis les années 10 pour construire ce monde-là s'est écroulé. Bon, il y a une sorte d'effet de suite puisque son frère, quelques années plus tard, périra dans un camp de concentration.
Est-ce qu'on peut dire de Karel Čapek que c'est un des plus grands écrivains tchèques du XXe siècle?
Ça a été un très grand intellectuel, un peu sur tous les fronts. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sens de l'observation, qui est en alerte. Et je pense qu'à cela s'ajoute une très grande vivacité de style. Les textes du voyage vers le nord sont très rapides. Il y a beaucoup de détails, un art de la description pas trop pesante, enfin un peu à l'anglaise en fait, qui font que ce sont des textes, oui, d'un grand écrivain.
Voilà, partir avec, c'est fini pour ce soir. L'émission a été réalisée par Fabrice Lègle, assisté de Claire Destacan et Hélène Calma, à la technique Jean-Philippe Jeanne et Basile Beaucaire. La semaine prochaine, nous partirons dans un grand voyage en Europe avec le plus français des écrivains écossais, Kenneth White. Ce lundi, partir avec Sandrine Mercier nous emmènera à la campagne dans des randonnées un peu particulières.